sur RFI. La danse des mots. Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans cette danse des mots qui entame avec bonne humeur et une certaine insouciance la deuxième semaine de rediffusion des émissions que nous avons consacrées pendant toute l'année, Lucie Bouteloup et moi, aux langues régionales. Et cette semaine, je vous propose d'aller mercredi, jeudi, vendredi en Corse, tout un programme, et demain et aujourd'hui en Bretagne, tout un programme. En Bretagne, pourquoi ? Parce que j'aimerais bien qu'on s'intéresse à l'histoire de cette langue qui est ancienne, qui a été parlée dans tout l'ouest de la France. Je dis qu'il y a été parlée parce qu'elle n'est plus parlée. Elle existe encore, tout à fait certainement, mais elle n'est plus vraiment parlée de façon courante. Il n'empêche, elle a une histoire ancienne, longue, intéressante, et il y a des gens qui s'y connaissent. En particulier, Erwan Evenou, qui pendant longtemps a été enseignant de breton, puis inspecteur, et qui nous a reçus de façon tout à fait charmante chez lui. C'est une jolie maison qui est dans le sud de la Bretagne, en Petite Cornouaille. On y était au printemps, et il nous a tout dit sur l'histoire de cette langue. Erwan Evenou, bonjour.
Oui, bonjour. L'histoire de la langue bretonne, justement, est passionnante. Elle nous vient en armorique de Grande-Bretagne. C'est une immigration en armorique qui s'est déroulée à partir de la fin du IVe siècle, qui a duré, on pense, au Ve et VIe siècle. Donc, des Bretons de Grande-Bretagne, à cette époque-là, sont venus s'installer en armorique.
Alors, un petit mot d'abord, justement, sur les premiers peuples, ou le premier peuple qui a parlé breton. Qui sont ces premiers Bretons ?
Alors, les premiers Bretons, on suppose qu'ils étaient en Grande-Bretagne au début du millénaire qui a précédé notre calendrier. Ça remonte à près de 3000 ans maintenant. C'était des Indo-Européens. D'où venaient-ils ? On ne le sait pas. Mais la langue bretonne fait partie des langues celtiques, de la branche celtique des langues indo-européennes, avec le gaélique d'Irlande.
Alors justement, combien y a-t-il de langues celtiques ? Le breton est l'une des arrivées de cet arbre celtique. Qu'est-ce qu'il y a comme autre branche ?
Alors concernant le britonique, il comprend actuellement trois branches. Le breton, commençons par nous, et en remontant au nord, en Grande-Bretagne, on subsistait aussi le cornouaillais de Grande-Bretagne et surtout le gallois du Pays de Galles. Et puis il y a une autre branche, la branche gaélique, qui comprend l'irlandais, la langue de l'île de Man, je crois qu'on l'appelle le Manx, et puis le gaélique d'Écosse.
Est-ce qu'il y a une relative intercompréhension entre ces langues ou bien elles sont trop séparées les unes des autres ? Si vous rencontrez quelqu'un de l'île de Man qui parle le Manx ou le gaélique ou le cornouaillais, est-ce que vous allez vous comprendre ou bien c'est difficile ?
Non, on se comprendra pas. Je comprendrai facilement un gallois. Et a fortiori, un cornouaillais du Cornwall, puisque, il parle à peu près comme nous. Enfin, il parlait actuellement, c'est en renaissance. Bon. En revanche, le gaélique, pour des raisons que j'ignore, s'est vite différencié du britonique.
Alors, le gallo se parle plutôt au sud-est de la Bretagne, le breton un petit peu partout dans le reste de cette grande péninsule bretonne. Comment est-ce que cette langue donc a évolué ? D'abord, quelles sont les premières traces, et même écrites, qu'on puisse trouver du breton ? Parce que le breton est une langue qui s'écrit depuis extrêmement longtemps, et les premiers documents qu'on a trouvés sont antérieurs, par exemple, aux premiers documents de l'ancien français. Hein. On sait que les célèbres serments de Strasbourg datent du IXe siècle. C'est le premier document où on dit, ça, on commence à dire, c'est du français, c'est la langue qui va donner du français. Pour le breton, on remonte où ? Quelle est la première première trace écrite, Erwan Evenou?
Alors, pour le breton de Petite-Bretagne, c'est, je crois, une page de médecine ou de botanique médicale qui remonte très loin. Mais enfin, c'est pas grand-chose. Hein, c'est pas grand-chose. En revanche...
Symboliquement, c'est important quand même, même si c'est pas grand-chose. Les serments de Strasbourg, bah, que c'est pas grand-chose non plus. Ah, c'est un texte politique, c'est autre chose. Mais là, c'est vrai que ça fait plaisir de se dire « Ah ben, on a trouvé quelque chose qu'on peut dater. »
Oui, qu'on peut dater. Alors, ne me demandez pas le siècle exact, mais il paraît que c'est antérieur au serment de Strasbourg. Alors, ça prouve, en revanche, que la langue était fixée. Ce qui n'est pas prouvé par le serment de Strasbourg. et que la langue était fixée, et on peut supposer que de l'autre côté de la Manche, au Pays de Galles notamment, le gallois, qui était très proche du breton à l'époque, s'écrivait déjà. Nous étions dès le 5e, 6e siècle, à l'époque des romans de la Table Ronde, du cycle arthurien, Tristan et Iseult, etc.
Très tôt donc, le breton c'est une langue qui s'est écrite. Est-ce qu'on a gardé beaucoup de traces, par exemple, de littérature?
Il y a d'abord et avant toute chose le Barzaz-Breiz. Alors le Barzaz-Breiz, c'est un recueil de chants populaires qui a été dressé par la ville marquée au 19e siècle. On a la preuve que ces chants, il a été accusé de les avoir un petit peu rectifiés. Bon, mais ça c'est pour le détail. Ces chants, on a la preuve qu'ils remontent au Moyen Âge. Il y a des chants druidiques là-dedans. Alors, est-ce que ces chants étaient écrits au départ? Probablement que oui, les anciens bretons savaient écrire. On a longtemps raconté que les bretons ne savaient pas écrire. Ça favorisait évidemment la position de la langue française, de l'école publique, etc. Mais il n'en était rien. Les curés, les recteurs, comme nous disons, rassemblaient autour d'eux les enfants qui lui paraissaient les plus doués. Et il leur apprenait, le recteur leur apprenait à écrire. Et il est évident que dans une population qui ne parlait que le breton, on leur apprenait à écrire le breton. Il y avait une orthographe déjà en moyen breton, c'est-à-dire 16e.
C'est-à-dire, oui, avant le 17e, disons.
Avant le 17e siècle, oui. Il y avait déjà une... ce qui est passionnant, d'ailleurs, c'est que cette orthographe était la même pour tous les dialectes. Voilà. Donc, il y avait déjà une langue normée, quelque part.
Alors, est-ce qu'il y a des problèmes, justement, de graphie en breton, puisque, bien entendu, le breton utilise l'alphabet romain pour s'écrire? Est-ce qu'il y a des phonèmes qui ne sont pas prévus par cet alphabet? De temps en temps, il y a des combinaisons de consonnes, par exemple. Alors, vous parliez du K qui pouvait reprendre une combinaison d'autres consonnes. Très souvent, on voit le ZH, par exemple, dans des mots écrits en breton. Parfois, il n'y a pas le H, il y a le Z, simplement. Pourquoi cette difficulté? Est-ce qu'il faut avoir des astuces? Est-ce qu'il faut recourir à des stratagèmes pour faire passer avec cet alphabet romain des phonèmes que l'alphabet n'aurait pas prévus?
Effectivement, c'était un problème, d'autant plus que la Bretagne était très influencée par la France, évidemment, et donc c'était plus que les normes latines, c'était les normes françaises qui étaient appliquées dans l'écriture. Et le premier problème qu'a eu à résoudre le moyen breton, on écrivait beaucoup en moyen breton des pièces de théâtre. Le premier problème qui a dû être résolu, c'était cette double prononciation du C qui se prononce tantôt que, tantôt ce, en français.
Ouais.
Alors, les Bretons avaient résolu le problème en mettant un Q lorsqu'il y avait une confusion possible. Voilà. Par exemple, care, un mot bien connu, s'écrivait Q-E-R.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maison, care?
Care, ça veut dire village. Hein. C'est carrément le village, oui. Voilà. Et alors, autre problème orthographique, le R. Alors, bon, le R en allemand, par exemple, s'écrit CH, mais le CH était déjà occupé par une autre fonction, c'est CHE. Bon, parce qu'il y avait aussi un CHE en breton. Alors, on avait adopté la graphie CH pour le CHE, comme les Français, mais après, Comment faire pour le « re » ?
Alors, le « re » qui est un « r » rauque, disons, qui est propre à la phonologie bretonne.
Oui, disons un « r » grasseillé. Parce que le vrai « r » en breton, c'était « r ».
Ah oui, bon. Il y a un « r » grasseillé, un « r » roulé, quoi.
Voilà. Alors, le « re », disons que c'est un « r » grasseillé sourd. Ouais. Voilà.
Alors, dites-nous quelques mots où il y a ce phonème, justement. Qu'est-ce qu'il y a comme mot breton où on a ce R grasseillé ?
Eh bien, je dirais par exemple roch, où on a à la fois le re et le re, c'est le roch, hein, c'est un mot celtique. Hein. Zach, le sac, ou à l'initial chas, le chat. Alors là, pour ce phonème, on a choisi la graphie C'H.
Alors, Erwan Evenou, un mot maintenant sur les différentes tendances. Est-ce que le breton est dialectalisé aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des bretons différents ? Est-ce qu'il y a des variantes de cette langue bretonne géographiquement dans la Bretagne du XXIe siècle ?
Oui, mais disons que c'est le breton des anciens. Le breton des jeunes est forcément un breton unifié, parce que ces jeunes l'ont appris soit à l'école dès le primaire, soit à l'université, soit avec leur grand-mère, mais bon, il a bien fallu conforter ses connaissances à l'université. On peut donc dire que le breton des jeunes, enfin des moins de 30 ans, est partout le même.
Ouais. Et est-ce qu'il y a des variantes de prononciation ? Est-ce qu'il y a des accents bretons ? Est-ce qu'à Lorient, à Brest ou à Saint-Brieuc, on prononce de la même façon ? Est-ce que vous reconnaissez par exemple quelqu'un qui vient du sud ou du nord, ou bien du centre du pays ?
Oui, on reconnaît facilement quelqu'un qui vient de l'ouest ou de l'est.
Et est-ce que quand vous entendez des gens qui parlent le breton, et peut-être plus des jeunes gens que des gens d'un certain âge, est-ce que vous trouvez que l'accent a changé depuis, par exemple, votre jeunesse ? Est-ce que vous pensez que, parfois, il y a des gens qui parlent le breton avec un accent français, avec un accent qui n'est pas vraiment l'accent des natifs, parce qu'ils l'ont peut-être appris alors qu'ils étaient enfants, adolescents, adultes
Je ne dirais pas un accent français, parce qu'on a de bons enseignants quand même. Le breton a fortement évolué parce que il a perdu beaucoup de sa substance phonologique. J'ai moi-même rédigé une thèse de phonologie, j'ai enregistré des anciens, je me suis aperçu que, bon, la langue bretonne parlée au début du XXe siècle était nettement différente jusque dans la prononciation du moindre phonème de la prononciation qu'on entend actuellement. Par exemple, le V, tout simplement le V. Ben, le V breton, c'était pas V, c'était V. Voilà.
Ah, dites-moi un mot avec ce V.
Kenavo, qui n'est pas Kenavo. Mais maintenant, tout le monde dit Kenavo.
Et vous dites comment ? Redites-le-moi, Erwan.
Kenavo.
Eh oui, le V n'est pas le même.
Quoi. Voilà. C'est
là qu'on voit la chair de la langue.
Un V bilabial. Un V bilabial et non pas la biodentale.
Okay.
En revanche, c'est vrai que certains bretonnants, ceux qu'on appelle les néo-bretonnants, n'ont pas tous acquis une bonne phonologie. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il ne faut pas dire le breton se dégrade, il faut dire il y a des brittophones qui le parlent mal.
Vous écoutez du breton ? Est-ce qu'il y a beaucoup de radios en breton ? Je sais qu'il y en a pas mal qui existent.
Oui, il y en a pas mal. Malheureusement, ce sont des radios locales et il faut arriver à les capter.
Ah oui. Oui. Et quand vous les captez, vous êtes content de la qualité de breton que vous y entendez ?
Tout à fait. Tout à fait. Les professionnels de la radio parlent bien la langue.
Il y a des journaux en breton aussi ?
Oui. Alors, il y a en particulier un hebdomadaire qui s'appelle Ya. Alors pourquoi Ya ? Parce que Ya veut dire oui en breton. C'est oui, il y a aussi une charte régionale, il y a d'Arbresonnec, oui à la langue bretonne, qui a été signée par des municipalités, etc. Alors l'hebdomadaire, il y a, diffuse du breton toutes les semaines sur 16 pages, et avec des informations, avec des articles de fond, etc., etc. Et alors, à côté de ça, il y a évidemment des revues plus littéraires, mais qui sont mensuelles. Ou...
Oui, et moins diffusées, probablement.
Et moins diffusées, nettement moins diffusées, oui.
Merci bien, Erwan Evenou. Nous allons quitter maintenant la route Cornouaille, remonter un tout petit peu vers le nord pour essayer de trouver des réponses à une autre question. Qui parle le breton aujourd'hui ? Nous avons donc quitté la Haute-Cornouaille, nous sommes remontés un petit peu vers le nord pour poursuivre notre enquête et avoir quelques réponses à des questions importantes. Qui parle le breton aujourd'hui ? Alors cap sur l'Office de la langue bretonne. Philippe Jacques, bonjour.
Bonjour.
Merci bien de nous recevoir, Lucie Bouteloup et moi, dans votre bureau. On est ici dans le bureau du directeur de l'Office public de la langue bretonne, puisque je crois que c'est votre fonction. On est à Carhaix, en Bretagne. Ben, moi, j'aimerais bien que vous nous fassiez rapidement, de façon un peu synthétique, même si c'est difficile, un état des lieux de la langue bretonne en 2018. Où est-ce qu'on en est ? Qui parle breton ? Combien de personnes parlent breton ? Peut-être en chiffre absolu, en chiffre relatif.
D'accord. Donc d'abord, le breton, c'est une langue d'origine indo-européenne, comme le français, mais ce n'est pas une langue latine, c'est une langue celtique. Alors on estime qu'aujourd'hui, il y a à peu près 200 000 personnes qui parlent breton, sans doute un peu moins. Donc la région Bretagne a mis en chantier une étude sociolinguistique qui devrait sortir cette année, donc on devrait avoir des idées un peu plus précises. Parce que jusqu'à présent, en France, il n'y a pas de question linguistique dans le recensement. Donc la question du nombre de locuteurs, que ce soit du breton, du basque, de l'occitan, etc., est toujours un petit peu difficile. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près autour de 200 000, sans doute au-dessous de 200 000 locuteurs aujourd'hui.
200 000 sur combien de personnes qui vivent en Bretagne ?
Alors si on prend ce qu'on appelle la Bretagne historique, c'est-à-dire les cinq départements, puisque la Bretagne est séparée en deux régions, la région Bretagne qui comprend quatre départements, et puis le département de la Loire-Atlantique qui est intégré avec Nantes comme capitale, qui est intégré actuellement dans la région des Pays de la Loire. Donc si on prend cette population, on est aujourd'hui 4 700 000 Bretons, donc 200 000 c'est véritablement un très petit pourcentage.
Ça fait 3-4%, quoi.
Voilà, à peu près. Voilà, tout à fait.
Alors, 3-4% de gens qui parlent le breton, mais que veut dire parler le breton ? Parce que j'imagine que ces 200 000 personnes, à peu près, n'ont pas le même niveau de breton, n'ont pas la même capacité à parler. À partir de quel moment est-ce qu'on dit que quelqu'un parle breton ?
Alors là, quand on parle autour de 200 000 locuteurs, ce sont de 200 000 personnes qui effectivement pratiquent la langue de manière régulière. Donc ce sont véritablement des locuteurs. Après, il y a plus de personnes, bien sûr, qui ont des niveaux de langue très très différents, qui comprennent quelques mots, qui peuvent dire quelques phrases, mais qui ne sont pas considérés comme des locuteurs.
Donc là, et ceux qui sont des locuteurs, c'est ceux qu'on appelle les bretonnants.
Voilà, bretonnant ou britophone. Nous, on préfère actuellement le terme britophone.
Pourquoi ?
Bah parce qu'on dit francophone, lusophone, russophone, arabophone. Donc, c'est véritablement un terme plus neutre, disons.
Alors, on voit à peu près le nombre de gens qui parlent le breton par rapport à l'ensemble de la population. Comment ça a évolué ces quelques dernières dizaines d'années ? Disons depuis deux générations, c'est-à-dire à peu près 35-40 ans, Philippe Jacques.
Alors il y a deux mouvements, si vous voulez. On a eu un traumatisme linguistique en Bretagne, mais qui est valable pour l'ensemble des autres langues parlées sur le territoire français, des langues autochtones. C'est-à-dire qu'à partir des années 50, 60, les gens ont cessé de transmettre leur langue maternelle à leurs enfants. Bon, c'était un phénomène qui s'est déroulé tout le long du XXe siècle, mais en Bretagne, ça a quand même... était très très fort sur une vingtaine d'années dans l'après-guerre, en fait. Là, il y a véritablement eu un basculement. Donc,
alors, comment on explique justement cette ligne de fracture à la fin des années 50 ou dans les années 50? Parce qu'on sait qu'il y a eu un mouvement très important après la guerre de 14, quoi, dans les années 20, où justement on s'est déjà rendu compte qu'il y avait une très grande partie des gens qui étaient des citoyens et des citoyennes français, françaises, et qui parlaient pas le français, qui parlaient leur langue, qui n'était pas le français. Et puis il y a eu ensuite une deuxième guerre. Et vous dites que le moment où justement on a eu, il y a eu une sorte de précipice, c'est pas forcément juste après la guerre. C'est pas le baby boom, c'est pas les années 45-50, c'est un peu plus tard. Comment ça s'explique, ça?
Je pense que c'est un phénomène qui est progressif sur l'ensemble du XXe siècle, donc il y a eu plusieurs événements importants qui l'expliquent. Bon, d'abord, à la fin du XIXe siècle, la mise en place donc de l'enseignement obligatoire en français, donc ce qui a permis aux Français de pénétrer en Bretagne, puisqu'avant la majorité de la population était monolingue, tout simplement breton. La Première Guerre mondiale, donc ça c'est un événement très important d'un point de vue linguistique, on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que tous les hommes sont sortis du territoire pendant 4 ans pour aller se battre à l'est de la France, donc beaucoup de personnes...
Donc brassage.
Brassage, et aussi une langue qui avait été apprise un petit peu à l'école, mais qui n'avait jamais été utilisée. Les hommes ont commencé à l'utiliser au front, donc quand ils ont pris des habitudes aussi de parler entre eux en français. Donc c'est vrai que quand ils sont revenus en Bretagne, il y a eu un progrès de la francisation. L'administration qui s'exprimait essentiellement en français. Alors en Bretagne, il n'y avait pas beaucoup d'industrie, donc le progrès social s'exprimait essentiellement par l'intégration, par les études et par l'intégration de postes de travail dans le secteur public. Donc ça, c'était très important en Bretagne. Donc pour travailler dans le secteur public, il faut bien maîtriser le français. Donc c'est vrai qu'il y a eu en Bretagne un investissement très important dans l'éducation. Donc tout ça fait que petit à petit, les années passant, le niveau de français des Bretons augmentait, la facilité de s'exprimer également, et puis petit à petit la disparition des locuteurs monolingues. Tant qu'on a des locuteurs monolingues, il faut maintenir la langue, mais comme on est...
Des locuteurs monolingues, c'est-à-dire des gens qui ne parlent que le breton.
Voilà, tout à fait, et donc ces derniers locuteurs monolingues sont morts entre les années 50 et les années 70, véritablement. Donc tant qu'on avait des locuteurs monolingues, il y avait aussi une nécessité de maintenir une pratique de la langue pour les intégrer, bien sûr, dans la société. Des transformations sociales très importantes également. Dans la structure familiale, il n'était pas rare qu'à la campagne vivaient sous le même toit plusieurs générations, les enfants, les parents, les grands-parents. Donc bien sûr... Là, il y avait besoin de maintenir la langue. Donc là, tout ça, ce sont de multiples choses et d'événements sociologiques qui font que petit à petit, dans une situation diglossique où on a une langue très forte, une langue officielle, une langue qui est parlée par tous, maîtrisée, une langue moderne qui sert dans l'ensemble des besoins. Comme le français est une langue minoritaire qui est petit à petit réduit à une pratique sociale qui est simplement la pratique en famille ou avec des amis, font que petit à petit on a un outil linguistique qui sert de moins en moins. Et voilà, tout ça, c'est une multiplicité de phénomènes qui ont abouti à ce basculement dans les années 50-60 essentiellement.
Alors, Philippe Jacques, est-ce qu'on peut dire que maintenant il y a eu une inversion de tendance?
Alors, on n'en est pas là. Toujours est-il qu'à partir de ce phénomène sociologique que j'ai un peu décrit, donc très rapidement, où la langue est petit à petit a été délaissée par la population, face à ça, il y a eu un mouvement politique, culturel, de réaction depuis le 19e siècle en Bretagne pour défendre la langue bretonne, parler cette langue, éditer dans cette langue, écrire de la littérature dans cette langue, publier, écrire des chansons. Donc il y a aussi tout un mouvement en faveur de la langue, mais qui est minoritaire. À partir de, et qui demandait notamment à l'État pendant très très longtemps la possibilité d'enseigner la langue dans les écoles publiques. En 1977, vous avez eu un groupe de parents qui se sont réunis, qui se sont dit, ben voilà, ça fait maintenant à peu près 100 ans, un siècle qu'on demande à l'État d'intégrer, d'enseigner le breton comme le français dans les écoles publiques, et on n'a pas de réponse, on a des réponses négatives. Donc ces parents se sont organisés, ont lancé, ont créé leur école pour leurs enfants sous forme associative, ce qu'on appelle les écoles Diwan en Bretagne. Ils se sont inspirés de ce qui se faisait au Pays Basque et puis au Québec auparavant pour la langue française. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un mouvement qui s'est développé pour créer des écoles bilingues et intégrer de plus en plus la langue bretonne dans l'enseignement.
Mais au niveau de la pratique de la langue, de la pratique concrète ou de la volonté de la pratiquer, est-ce que vous avez l'impression que maintenant il y a quelque chose qui est plus important qu'il y a 30 ou 40 ans, moins extrémiste, moins minoritaire, plus partagé, je dirais presque un peu normalisé?
Alors c'est vrai que la langue a été beaucoup marginalisée et puis petit à petit les Bretons étaient dans cette optique, mais c'est aussi parce que ils avaient été formés pour ça, que dans le cerveau il n'y avait pas de place pour deux langues, et comme il y avait cette nécessité d'apprendre, de pratiquer et de connaître la langue française, il fallait donc apprendre le français et délaisser le breton. Donc cette idée qu'il était possible d'être bilingue et de maintenir un bilinguisme équilibré, c'est quelque chose qui a mis très très longtemps à apparaître et puis à être accepté. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui est aujourd'hui gagné quelque part, c'est que c'est vu comme quelque chose de très positif. Et donc la langue, aujourd'hui, intègre de nouveaux champs sociaux. Pendant très longtemps, donc, elle a été limitée aux aspects communicatifs avec la famille et les amis. Et on voit, si vous vous promenez en Bretagne aujourd'hui, vous allez voir autour de vous la langue, la présence de la langue de plus en plus présente dans la vie publique, notamment dans tout ce qui est signalisation routière. Et donc on voit que petit à petit, les pouvoirs publics commencent à prendre en charge la langue bretonne à travers ce qu'on appelle des politiques linguistiques. Donc on est en train de sortir du laisser-faire, en fait, et on va vers, voilà, cette langue fait partie de notre patrimoine, elle est présente sur le territoire depuis au moins 1500 ans, donc elle nous appartient, et c'est à nous aussi qu'il revient d'assurer sa pérennité.
Une question plus personnelle, Philippe Jacques, vous, comment vous avez appris le breton? Comment ça se fait que vous, qui appartenez justement à cette classe d'âge des actifs, vous soyez à la tête de l'Office de la langue bretonne, vous parlez le breton, comment ça se fait?
Voilà, tout à fait, je suis dans une situation qui correspond à ma génération. Le français est ma langue maternelle. Bien que mes parents parlaient breton, j'ai été élevé en français. Donc
mais vos parents parlaient le breton?
Oui, tout à fait, mais j'ai été élevé en français, comme la plupart des personnes de ma génération. Donc j'ai dû réapprendre le breton, me réapproprier ma langue que je considérais comme ma langue maternelle, mais que je ne parlais pas, que je ne comprenais pas. Donc j'ai commencé à réapprendre le breton à l'âge de 16 ans.
Vous appelez Fulup Jacques, j'imagine que sur votre carte d'identité, j'oserais pas vous la demander, mais il n'y a pas marqué Fulup.
Si, il y a marqué Fulup.
Et il y a toujours eu marqué Fulup?
Non, il n'y a pas toujours eu marqué Fulup, parce que quand j'étais petit, les prénoms bretons, c'était interdit. Les textes ont changé, maintenant il est beaucoup plus facile de changer son prénom.
Merci Philippe Jacques, merci Erwan Evenou. Demain, bien entendu, nous continuerons nos investigations. Tout cela dans cette série d'émissions réalisées en partenariat avec la DGLFLF, la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France. Dans La Danse des Mots, une émission proposée par le réseau Canopée et par RFI, Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Amar.
Vous souhaitez réécouter l'émission La Danse des Mots? Rendez-vous sur le site internet RFI.